Bien, alors présente-t-on Alexandre Geffen?
Oui.
C'est une question. Pour moi, c'était d'abord le concepteur, l'animateur de Fabula. Et puis ensuite, je l'ai découvert dans le projet Artamen. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il était aussi spécialiste de Marcel Schwab, d'une époque littéraire. Ça reste donc une sorte de mystère pour moi. Et c'est avec grand plaisir que je l'écouterai nous faire la dernière communication de ce colloque. Alexandre, merci. À toi la parole.
Merci. Je devais vous faire quelque chose sur l'édition électronique, ses perspectives, et c'est, je ferai peut-être en marche, mais j'ai voulu commencer à le faire.
Je ne me penche pas, le micro
se penchera pour moi. Et je me suis aperçu être finalement assez incapable à faire de la prospective ou une comparaison avec le passé. Ce que j'avais esquissé par ailleurs à d'autres membres, d'autres articles. En tout cas, je n'étais plus capable de le faire maintenant parce que j'étais confronté à quelque chose qui relevait vraiment d'un éclatement complet des usages et des modes de production du texte sur Internet. Et donc, je m'interrogeais aujourd'hui rapidement sur cette hétérogénéité, sur la possibilité qu'on aurait ou qu'on n'a plus de parler encore d'un texte électronique. Alors, je crois que c'est une question tout à fait étonnant parce que l'impression d'unicité de l'Internet, ce texte continu qui déroulerait ses 50 milliards de pages et serait un hyper lien universel, a été perçue comme fondatrice de l'originalité du web, à la fois dans ses spécificités de lecture et ses spécificités d'édition. J'ai retrouvé une remarque de Chartier, historien du livre, qui faisait remarquer que on peut parler de livre électronique, mais pas avec une référence au livre imprimé. C'est un objet particulier qui transmet une classe particulière de texte. Le livre désigne à la fois l'objet et l'œuvre. Cette liaison fondamentale imposée depuis le début de l'ère chrétienne, bien avant Gutenberg, disparaît avec l'écran. Quand on lit sur un écran, il y a une continuité textuelle et matérielle dans le support. Le contenu peut être indifféremment un roman, une base de données, un journal électronique, du courrier, un texte que l'on a écrit soi-même. Avant l'écran, tous ces contenus renvoyés à des objets très différents. Alors, je ne vais pas rentrer dans une première critique qu'on pourrait faire de cette homogénéité par rapport aux outils maintenant de plus en plus différenciés que nous avons d'accès à Internet. Ça pourrait être un premier élément de réponse. Je voudrais montrer que le web n'est plus un espace homogène, qu'on ne peut plus penser à un modèle unique d'écriture ou de lecture ou d'édition électronique, et que ce n'est qu'en apparence que les formes de présentation ne différencient pas l'autorité, les genres et les statuts de vérité des textes qui nous sont donnés. Je crois que ce qui se passe simplement, c'est qu'on ne commence qu'à acquérir maintenant des outils des compétences différenciantes nous permettant de savoir qu'est-ce que c'est que le paratexte et le repérage générique d'un texte sur Internet. C'est seulement maintenant que nous commençons à avoir l'attention suffisamment aiguisée aux outils de production et d'édition et de commentaires pour que nous puissions repérer les valeurs ou les différentes autorités du texte, leurs origines et leurs auteurs. Donc ça serait une illusion que ce texte infini et que cette bibliothèque infinie qui vous devrait se constituer devant nos yeux. Et je crois que les outils d'unification, les outils réels d'unification que nous avons, l'HTML pour la lecture, les flux RSS pour les échanges intersites ou encore Google pour la recherche, ne sont que des outils d'unification à minima. Et que je crois que la première tâche qu'on doit avoir en étant sur Internet, c'est de lever cette fausse homogénéité pour essayer de comprendre pourquoi l'espace d'Internet est aussi instable et aussi hétérogène à plusieurs niveaux. Alors j'ai essayé de me demander pourquoi je ne pouvais pas parler d'un paradigme unique d'édition électronique, pourquoi j'étais confronté à différentes strates, à différents types de textes, et pourquoi l'unité ne me paraissait plus pensable comme au début du web, où le CERN avait un outil assez homogène, et où on voyait de manière assez linéaire les possibilités d'évolution. Et le premier ordre de réponse, c'est un ordre de réponse technique. Alors, ça va m'occuper un peu de temps, mais je crois que il faut bien comprendre que l'évolution de la technique n'est absolument pas linéaire, qu'elle progresse par des allers-retours entre standards et production réelle, et que ces avancées de techniques de standard, ces propositions de standard, ne sont pas toujours implémentées et suivies, que parfois elles divergent, qu'elles se fragmentent. On pourrait prendre toute une série d'exemples. Les avancées de la standardisation n'ont pas toujours donné des grands aboutissements techniques auxquels ils auraient dû aboutir. Tout le travail du World Web Consortium depuis deux, trois ans se fait sur le web sémantique. Les grandes avancées réelles se font sur d'autres fronts. Les grandes évolutions réelles se font sur d'autres fronts. Les grands espoirs qui avaient été misés dans le câble se sont retrouvés rattrapés par la DSL. Le Wi-Fi a suppléanté d'autres technologies qu'on espérait vouloir s'imposer à la place. Innombrables sont des décalages entre les usages réels et les rêves de standardisation et d'organisation des progressions techniques. Donc je crois qu'il faut faire avec l'anarchie réelle, le caractère empirique, le fait que les standardisations se font parfois a posteriori et de manière minimale. L'exemple paradigmatique de ces attitudes de rattrapage, c'est Google, qui travaille avec le minimum, le plus petit commun dénominateur, qui ne fait du RSS pour sa formation que depuis 3 semaines parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et je crois qu'il faut bien comprendre ce principe du PPCM, qui est qui s'impose face à la quantité industrielle de projets et d'outils disponibles sur le web. Et je crois que on a pu accuser les effets de concurrence commerciale de brouiller la construction d'un espace homogène en montrant par exemple comment Microsoft a tenté de détourner à son profit par exemple les spécifications de l'HTML traditionnel, ou a essayé de pervertir pour maîtriser le XML lorsqu'on l'a lancé en voulant imposer son propre format dans Office, etc. Mais je crois que le logiciel libre vit de cette anarchie même. Ceux qui suivent comme moi l'évolution ne serait-ce que des distributions Linux ou des grands outils savent que ça ne progresse que par des séries de scissions, les projets se séparent très couramment, qu'on n'a pas d'interface homogène sous Linux, qu'on a une bataille très forte entre deux grands standards, qu'il n'y a pas un Linux, mais qu'il reste une très forte opposition entre différents vendeurs, mais différentes adaptations pour le libre d'Unix, FreeBSD, Linux ou OpenBSD, etc. Donc le logiciel libre vit de cette anarchie, vit de cette concurrence, sans jamais qu'on atteigne le point d'équilibre qui permettrait de constituer un espace homogène. Dès que ce point semble atteint, très souvent des divergences technologiques, des nouveautés technologiques font qu'on se retrouve de nouveau dans une situation d'hétérogénéité, qu'une nouvelle génération de navigateurs doit être capable de lire telle ou telle nouveauté technique qui s'inscrit à la marge, mais qui va représenter 5% d'utilisateurs. Donc on est finalement affaire à des outils qui gèrent des standards tout à fait innombrables, empilés et hétérogènes. Alors ces formats, on en a une gamme absolument invraisemblable sur le web littéraire. On va du texte seul, qui est encore le texte le plus qui ne connaît même pas le gras ou l'italique, qui est utilisé encore dans les bibliothèques électroniques de Lisieux, dans d'autres projets tout à fait considérables de dépôt de texte en ligne, jusqu'à des standards extrêmement lourds, comme des standards basés sur la TUI ou DocBook, qui sont des standards XML, c'est-à-dire qu'ils présupposent des descriptions complètes de la manière dont ils encodent les textes. Donc ce sont des standards qui comprennent à la fois une manière d'encoder le texte et l'analyse complète de la procédure d'encodage, ce qui garantit la pérennité, les réutilisations, les réemplois du texte, mais représente une lourdeur et une rigueur absolument invraisemblables. Donc on a toute une gamme tout à fait impressionnant de standards qui se superposent. Le point d'équilibre est peut-être donné par le HTML, mais le HTML, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut plus dire grand-chose. On a une série de couches de versions d'HTML, de l'HTML de base à l'HTML Microsoft, jusqu'à des HTML qui tendraient à se rapprocher de standards plus sérieusement gérés, comme ce qu'on appelle le XHTML, qui serait un HTML plus rigoureux et qui devrait préparer le passage à une nouvelle génération, qui séparerait le contenu et le contenant. Or, dans les faits, l'observation réelle des sites montre que vous avez tout et n'importe quoi, que vous avez parfois une partie du site qui est conforme au standard, l'autre qui n'est pas conforme. Et un navigateur Internet, c'est quelque chose qui est capable maintenant d'abstraire toute une série de micro-erreurs, d'infractions à la règle, ou de multiplicité de dire la même chose. Je me suis amusé à recenser. Il existe au moins 6 manières de coder les italiques, par exemple, selon qu'on utilise des feuilles de style, les anciens standards HTML, etc., etc. Donc, et je ne prends ici en compte pas les standards d'Outlook et TUI, je ne prends pas en compte les PDF qui continuent à être utilisés massivement comme outil de publication, la variété qui existe à l'intérieur des standards de PDF, les usages du Flash, etc. Donc si vous voulez, un bon navigateur, c'est quelque chose qui doit s'adapter. Maintenant, un bon outil de gestion de contenu, j'en parlerai, c'est un outil qui doit admettre la multiplicité des possibilités d'entrée de saisie de texte, savoir importer différents formats de texte, qui doit être capable de les ressortir dans différents formats, avec pas mal de souplesse, donc de pouvoir amortir et rendre transparent ces sauts technologiques qui se sont entassés. Hein. Le web m'apparaît vraiment comme une structure véritablement sédimentaire maintenant, et je crois vraiment à nouveau que ça explique le triomphe de Google, qui est une machine absolument agnostique et qui fait vraiment avec le minimum vital. Alors cette évolution de standard qui nous fait attendre ce fameux web sémantique de la troisième génération, dont on se demanderait bien quand est-ce qu'il va arriver, et ne serait-ce que les améliorations minimales consistant par exemple à ne plus faire des bricolages avec des tables quand on fait une mise en page HTML, mais à basculer dans ce qu'on appelle des feuilles de style, eh bien je crois je ne sais pas si on n'arrivera jamais à quelque chose de propre, parce que si on tend vers quelque chose d'un peu propre, cette spécification plus ou moins stabilisée va elle-même rééclater. Les outils de gestion que nous utilisons sont eux-mêmes, de production de texte, sont eux-mêmes extraordinairement hétérogènes. On y trouve à la fois des outils qui sont basés sur nos ordinateurs courants, sur nos PC, sur nos Macintosh, des outils généralistes, des convertisseurs innombrables, depuis des convertisseurs LaTeX vers HTML, Express vers HTML, des convertisseurs qui vous mettent directement du Word ou du PDF. Donc une quantité absolument invraisemblable d'outils sur les postes de travail. Et quant aux outils qui sont dits web-centriques, c'est-à-dire des outils qui permettent la gestion du site complètement, non pas par transfert d'une structure qui a été créée sur l'ordinateur sur le site web, mais directement à l'intérieur du site web, ces outils présentent une variété absolument infinie. Il y a 250 outils de gestion de contenu qui sont en concurrence, et je ne parle que des outils de gestion en open source, c'est-à-dire gratuits. Il existe au moins 3 ou 4 grands outils de gestion professionnels, depuis Vignette qui est employé pour les journaux, jusqu'aux outils utilisés par les grands éditeurs américains et les grandes plateformes. Je ne rentre pas dans les détails. Sans parler du fait que de très nombreux sites sont et continueront d'être construits avec des outils maison, c'est-à-dire qu'on va développer de manière purement ad hoc un petit système de gestion de la structure, ce qui pose des problèmes considérables de pérennité. On se retrouve très souvent dans des situations de récupérer des sites web qui ont été programmés avec des bases de données dont on ne connaît plus la structure. L'ensemble de ces outils de gestion de contenu ne respectent absolument pas des standards de sémantisation minimum. les métadonnées qu'on pourrait espérer être gérées à minima, comme par exemple la base de données auteur, hein, on n'a pas de base de données auteur utilisée de manière homogène dans le web, on n'a pas d'équivalence, ce qui fait que dans cette espèce d'énorme machine à texte, on est incapable de déterminer l'auteur d'un texte, qui n'est pas le moindre des paradoxes de manière homogène. Isabelle nous rappelait que on n'avait pas non plus d'outils qui permettaient d'assurer une référence de manière stable à un document. Le XML qui devait constituer une base commune et permettre d'organiser tout ça met énormément de temps à s'implanter. Lui-même a des possibilités d'extensibilité immenses qui font qu'il peut tendre à rendre des choses encore moins maîtrisables qu'on pourrait le penser. Donc vous voyez qu'on a une gamme invraisemblable d'outils. Nous-mêmes devons pratiquer des langages et des modes de saisie de plus en plus variés. On a soit la possibilité d'apprendre nous-mêmes le HTML quand on doit saisir dans ces outils de gestion de contenu, soit d'utiliser des outils de conversion, soit encore, on note une émergence assez intéressante d'outils intermédiaires, de langages de saisie, en particulier je pense à celui qui est étudié dans le wiki, qui permet à moindre frais de faire quelque chose qui sera ensuite exploité dans une page web, c'est-à-dire qu'on va coder plus facilement qu'on le fera en HTML, des italiques ou des niveaux de style. Il y a d'autres concurrents au wiki, notamment le système textile. Donc, là encore, les meilleurs outils de gestion de contenu sont des outils qui sont capables de récupérer 3, 4, 5 formats et d'avoir des sorties les plus homogènes possibles. Cette anarchie, cette absence quasi complète d'usage des sémantisations, alors que, si je me souviens bien, le grand standard vraiment très très minimal, qui s'appelle le Dublin Core, qui est censé spécifier l'auteur, la date d'un texte à au moins 10 ans, nous conduit à un écrasement complet des types de textes, à une hétérogénéité des interfaces. Hein. Michel Bernard le faisait remarquer à propos du site spécialisé qu'on a mis en place avec Claude Bourqui. On n'a pas d'interface ad hoc. On a encore des oppositions tout à fait fondamentales qui ne sont pas résolues entre un modèle de navigation par page et un modèle de navigation type codex. Certains sites sont véritablement assument la verticalité du site de la page internet, d'autres essayent de ramener ou de réduire un système de pagination. La mode maintenant est à des pages, des sites centrés. Est-ce que ça va évoluer ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est tout à fait important parce que ça je crois conditionne non seulement une perte de temps considérable mais nos possibilités de production et d'appropriation même des textes. Ces questions de positionnement, de mise en page sont considérables. À l'intérieur de Fabula, dont je m'occupe avec une petite équipe, par exemple, je lutte, mais c'est extrêmement difficile, on a 3 ou 4 formats de mise en page, de positionnement des notes, de positionnement de l'auteur, et on a encore des années après des confusions entre qui est l'auteur d'un article, et on nous écrit pour nous demander d'envoyer une bibliographie ou de s'inscrire à un colloque, à cause de ces types de confusion. Donc on travaille avec l'hétérogène, les moteurs de recherche font ce qu'ils peuvent, Google aplatit tout, l'espoir d'un moteur sémantique ne semble que rester à l'état de projets expérimentaux. Pour les scientifiques, les scientifiques misent une partie de leurs espoirs dans un système qui vous a été présenté, qui est le protocole d'indexation OAI, hein, je crois que ça vous a été présenté ce matin, je ne pouvais pas citer la séance, c'est-à-dire un standard qui permet de récupérer un nombre d'informations minimum. OAI, ça veut dire Open Archive Initiative, c'est-à-dire une archive ouverte de textes scientifiques. Est-ce que l'OAI va l'emporter? Je ne sais pas. Et je crois que cette problématique de l'indexation qui finit par nous conduire à des choix minimaux et à accepter l'hétérogénéité, on la retrouvera, et ça m'amuse de voir qu'on la retrouve en ce moment dans tout ce qui est moteur de recherche intégré au système d'exploitation. On avait un double espoir dans les nouvelles versions des systèmes d'exploitation de Microsoft et d'Apple d'avoir des systèmes d'exploitation qui seraient de véritables, dont le système de fichiers serait des véritables bases de données, c'est-à-dire que vos fichiers seraient eux-mêmes indexés, et Apple et Microsoft ont annoncé qu'ils remettraient s'arrêter à dans quelques années, la vraie bascule vers des systèmes de base de données intelligents pouvant caractériser les textes qui sont dans notre ordinateur en y apportant ne serait-ce que quelques métadonnées utiles. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation d'anarchie technique, d'anarchie organisée, d'anarchie productive, mais d'anarchie. Les modèles, et c'est mon deuxième et dernier grand point, je sais pas ce que je vais essayer de faire assez vite, hein, sont les modèles économiques et de production, de diffusion, et d'ailleurs non seulement dans l'économie marchande, mais dans l'économie du savoir, sont eux-mêmes extrêmement hétérogènes. La production de textes numériques, et je mets tout à fait à part la production d'œuvres en ligne qui reste ultra marginale et ultra confidentielle, on l'a vu, offre une gamme tout à fait large d'institutions, de structures, si les textes nous arrivent en ligne, c'est en passant par des manières de venir au web tout à fait différenciées. On a eu des rêves d'éditeurs en ligne qui ont tous échoué. Certains d'entre vous connaissent un certain nombre d'expériences fondatrices de ce point de vue-là. Alors, est-ce que ces éditeurs en ligne ont échoué à cause de la culture de la gratuité? Est-ce qu'ils ont échoué, à mon avis, c'est peut-être l'explication, à cause d'une absence d'autorité? Je ne sais pas, mais en tout cas, les modèles de production complètement fondés sur une édition en ligne ont échoué. Des modèles de conversion tardif et a posteriori semblent majoritaires. Des cas de conversion plus ou moins pénible de collections numérisées pour d'autres fins, par microfilm, par microfilm, se mettent en place, mais là aussi nous avons d'immenses hésitations entre des rêves d'exhaustivité, celui de Google Book, des travails au contraire hyper spécialisés de suréquipement d'un texte, ou encore des constitutions de collections thématiques. Alors vous pouvez trouver, vous reconnaîtrez, et certains sites spécialisés, et le projet Google Print, et Gallivka, hein, qui fonctionne en hésitant entre on numérise tout, ou on organise une numérisation, on numérise un minima en faisant du PDF, ou au contraire on équipe les textes au maximum, sans qu'on puisse véritablement savoir pourquoi tel ou tel texte va être suréquipé, tel ou tel sous-équipé. Ces modèles marquent donc une inquiétude, enfin une série d'interrogations sur les véritables finalités, les véritables usages. On y reviendra. Moi je crois beaucoup, parce que je crois que c'est la seule attitude pragmatique à tenir, à des modèles couplés, hein, c'est toujours ce qu'on a essayé de faire, hein, c'est-à-dire des modèles de bipublication, ce qu'on a fait avec le grand Cyrus, avec Claude Bourqui, c'est ce qu'on avait fait avec Fabula en publiant sur papier des colloques en ligne. Lorsque j'étais content, c'est pas quand on avait quelque chose en ligne, mais c'est quand on avait à la fois quatre versions en ligne et une version papier. Moi il me semble que c'est le seul point de vue défendable tant que le champ des usages et des pratiques ne s'est pas suffisamment structuré, d'avoir et l'e-book et la version imprimable et la version lisible en ligne et la version papier déjà éditée. Je vois pas d'autre solution qu'à cette approche extrêmement pragmatique qui tient compte des usages extrêmement différenciés. Ces hétérogénéités dans les modes de production du texte en ligne se retrouvent dans, lorsqu'on analyse un peu les modes de contrôle des textes, leurs autorités. On a une gamme absolument invraisemblable de degrés d'autorité dans les textes qui vont de formes d'hyper-identité, de textes surverrouillés, de web narcissiques, à des formes au contraire de dissolution de l'autorité scientifique ou de l'autorité littéraire, comme sont certains projets qu'on a pu évoquer du côté de la création littéraire, mais comme est le futur manuel de tous nos étudiants et le futur outil de travail dominant qui est le Wikipédia. Alors, je n'ai pas le temps de montrer, mais c'est tout à fait intéressant comme paradigme. À savoir, c'est une encyclopédie immense parce qu'elle comprend plusieurs dizaines de millions de pages maintenant, dans différentes langues, qui est autogérée par ses utilisateurs sans signature. Hein, alors, qui a implémenté des procédures d'élection, discussion, de contestation tout à fait intéressantes, qui a essayé de proposer une interface homogène, quelle que soit la langue, quel que soit le type d'article, des protocoles de choix dans ce qui va être lié ou pas lié, mais qui essaye de respecter la variété des articles, la variété des intérêts et des modes de lien, sachant que le résultat est tout à fait étonnant, à la fois tout à fait inquiétant, parce que malgré les procédures de vérification et de contrôle, la qualité n'est jamais garantie, l'autorité se dérobe beaucoup, on a des articles qui sont d'une immense médiocrité et qu'on va retrouver, vous les verrez bientôt dans les copies de vos étudiants, hein. D'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, hein, mais j'avoue mon extrême j'en reparlerai tout à l'heure, mon extrême inquiétude, hein, c'est l'anxiété d'Internet ici la frappe, en tout cas quelqu'un qui a été élevé dans une culture de l'autorité universitaire. Et on a donc des procédures collaboratives plus ou moins élaborées, syndication sans contrôle, syndication contrôlée, blog avec commentaires contrôlés, forum de discussion. Alors là aussi il y a toute une gamme de modes d'autorité possibles, depuis les wiki complètement ouverts, fondés sur la responsabilité, d'autres sur le contrôle a posteriori, d'autres sur le pré-enregistrement, d'autres sur des procédures de vérification beaucoup plus lourdes, etc., etc., etc. Il n'y a pas de protocole de signature, on l'a dit, et les sites les plus actifs ont trouvé des solutions tout à fait pragmatiques, dont en général les principes ont été donnés par ce qu'on a pu produire dans le logiciel libre, c'est-à-dire des phénomènes d'auto-élection et d'auto-sélection par investissement personnel. Les procédures utilisées pour travailler par exemple sur Linux, quand on a plusieurs milliers de développeurs sur un projet, ont été plus ou moins apportées dans dans les forums ou dans les lieux de discussion les plus animés, à savoir des procédures d'auto-élection de narrateurs sur des votes ou sur des effets de présence quantitative, et l'autorité tient à la présence et à des effets de reconnaissance, hein. On est là aussi dans des modèles qui sont des modèles largement statistiques, hein. La valeur est une valeur de présence statistique. Beaucoup de forums attribuent le statut de modérateur détenant la vérité à quelqu'un qui est plus ou moins présent, qui a produit plus de X articles, etc., etc. Donc, des modèles d'autorité tout à fait hétérogènes. Je ne parle pas de ce qui est des sites universitaires où là aussi on a un empilement de notices fiables, de sous-notices, etc. Cette autorité éclatée va de pair avec une gamme de statuts juridiques absolument incommensurable. On va du code fermé, ultra protégé, encrypté, jusqu'au code super ouvert, avec certaines licences qui sont dites collantes, enfin je peux traduire ça de l'anglais, c'est-à-dire qu'elles interdisent même de verrouiller tout ce qui les emploie une seule fois. On a toute une série de droits juridiques tout à fait variables, d'immenses sphères de non-droit également. Il y a toute une série de choses sur lesquelles on ne sait pas se prononcer. Le statut juridique d'une information, par exemple, lorsqu'elle est citée simplement sous la forme de RSS, n'a pas de statut juridique. Nous sommes confrontés à des cas très variés, par exemple lorsqu'on a une double publication à la fois sur papier et en ligne, à des cas, à des modèles tout à fait différenciés de gestion juridique. Dans certains cas, on a ce qu'on appelle un moving wall, c'est-à-dire un mur qui va faire que le texte est accessible ou ne devient plus accessible, qui est parfois avant l'apparition du texte, c'est-à-dire que le texte est accessible en préprint, mais une fois paru, il disparaît de l'accessibilité, ou au contraire, c'est après être paru que le texte va être accessible. Là, on peut opposer de manière tout à fait nette les grands journaux n'ont pas les mêmes politiques, là aussi sans régime juridique clair. Le régime des extraits est lui-même tout à fait problématique. Vous avez vu il y a quelques jours qu'à la grande joie du président de notre Bibliothèque nationale de France, Google Books est revenu en arrière sur le copyright de la numérisation de textes sous copyright, parce que Google a voulu copier une pratique assez intéressante qui avait été développée par Amazon en texte intégral sur des textes sous copyright, c'est-à-dire la possibilité de faire des recherches sur un texte, mais d'avoir que certains extraits. Hein. On avait l'extrait de la page qui nous intéressait et on pouvait accéder comme ça, sans pouvoir lier, remettre ensemble le texte lui-même. Google Books a essayé de faire ce genre de choses. On lui a expliqué que ça allait poser toute une série de problèmes et ils sont revenus en arrière. Hein. C'est-à-dire que non seulement leurs prétentions sont revues à la baisse du point de vue quantitatif, mais en plus ils ont renoncé aux ouvrages copyrightés. Et tous les modèles de gestion de droits des fichiers e-book un tout petit peu complexes ont d'ailleurs échoué. Ça explique l'échec d'énormes initiatives comme par exemple ce qu'avait voulu faire Microsoft avec le Microsoft Reader. Les systèmes de gestion de droits, on appelle familièrement les DRM, étaient trop complexes. Et les seules choses qui se sont imposées, on le voit bien avec le succès du côté de la musique, et on va voir l'équivalent du côté du texte, ce sont des systèmes de droits extrêmement légers, hein, avec des systèmes d'authentification une seule fois, et ensuite une propriété. Pourquoi ? Parce que le dictateur réchigne, je crois, à se désapproprier, j'y reviendrai, d'un texte. Des systèmes sont plutôt fondés sur l'appropriation que sur la location. Il semblerait que tous les modèles de location de texte aient échoué. Il y avait une très grosse initiative de location de texte en ligne qui n'a pas donné grand-chose. Cette fameuse culture de la gratuité qui s'est imposée sur la musique commence d'ailleurs à s'imposer sur le livre. On voit apparaître, pour l'anecdote, il peut m'arriver de fréquenter certains des outils où on diffuse des textes plus ou moins piratés, etc. Il a une énorme collection de près de 20 000 textes qui est paru, d'origine extrêmement étrange. Alors j'ai récupéré tout ça, mais il y a un phénomène de pollution, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de textes révisionnistes qui étaient insérés dans cette énorme collection. Donc j'ai passé 2 jours à faire le tri en regardant dans mes 20 000 textes lesquels étaient une manière d'insinuer. Donc s'il y a des gens qui veulent des exemplaires de Mein Kampf, je dois peut-être avoir encore une vieille copie avant que je la supprime totalement. Donc des problèmes de pollution qui tiennent et qui sont tout à fait similaires à ceux qu'on a pour la musique. Hein. Donc un champ où, malgré la simplification des systèmes de gestion de droits, les réseaux de piratage qui vont se superposer aux diffusions, au mode diffusion verrouillé du texte, vont poser toute une série de problèmes inéluctables. Donc tout cela engendre des modèles d'évaluation extrêmement éclatés eux aussi. On va des modèles d'auto-évaluation par la communauté de lecteurs, auto-évaluation plus ou moins organisée, à des modèles d'évaluation statistique, hein, les livres les plus vendus sur Amazon, à des modèles d'évaluation dirigés, là encore les commentaires des lecteurs sur Amazon, ou à des modèles doubles où on a fois l'évaluation professionnalisée en parallèle avec l'évaluation des consommateurs. Là je pensais à différents modèles, celui qui se rapproche le plus en en France et ce que font les critiques par exemple de cinéma. Là, dans Allociné, on a parallèlement l'évaluation du lecteur et l'évaluation du professionnel avec le même système de notation. Les procédures de véridiction peuvent faire appel à des modèles plus ou moins élaborés de décision collective, comme à la valorisation d'un contact direct. On a vu des sites qui démontraient par des vraies photos ce qui s'était réellement soi-disant passé le 11 septembre avec telle ou telle déformation et des théories du complot. Donc on peut avoir une valorisation de modèles de vérité fondée sur ce hors-texte-là et sur cet ordre de manipulation, comme des modèles de validation qui sont fondés sur le brick and mortar, comme on dit dans le commerce, c'est-à-dire le fait que on adosse systématiquement un site internet à une institution reconnue. Encore un autre modèle d'évaluation avec des tas de situations intermédiaires où telle ou telle revue émane plus ou moins directement d'une institution qui la valide plus ou moins directement, etc., etc. D'où donc des modes d'usage et des modes de consommation aussi tout à fait hétérogènes. Hétérogènes, on l'a vu dans le degré d'implication, le degré d'activité du visiteur dans le texte, des situations d'activité du texte construit, de participation, des situations de passivité, de pure consommation, des situations de semi-activité qui consisteraient par exemple dans les RSS ou les différents systèmes d'abonnement, hein, où on serait semi-acteur des contenus qu'on véhicule, et tout ça se croise à des rapports à la temporalité tout à fait différenciés. Internet a ceci de tout à fait extraordinaire qu'il juxtapose des modes d'accès en temps réel à l'information, en temps quasi-immédiat, en temps semi-immédiat, légèrement différé les blogs, en temps médié par un modérateur comme dans les forums, ou des modèles de pérennité, hein, où on a le texte original, des numérisations originales du texte tel qu'il était en lui-même, où c'est l'antériorité absolue du texte qui s'impose, avec souvent une articulation difficile entre ce qui relève de l'ordre de l'actualité et ce qui relève de l'ordre de la référence. Hein, ça, c'est un problème constant et auquel se confrontent d'ailleurs tous les grands journaux, de nombreux outils de production de savoir. On a ce problème typiquement avec Fabula, où ce qui relève de commentaires d'actualité devient une parole de référence sans forcément une autorité. Alors, pour conclure, je pense qu'il faudrait insister sur le fait que tout ce désordre et toute cette instabilité ne tient pas seulement qu'à ces facteurs technico, économico, juridico, institutionnels, mais tient aussi à des facteurs que on pourrait qualifier de culturels ou de philosophiques. Je crois Michel rappelait que notre appréhension du temps, de l'identité, de l'espace était largement fondée sur les récits. Enfin, on est dans une maison que Paul Ricoeur a suffisamment habité pour s'apercevoir de la lourdeur des changements conceptuels qu'introduirait la conversion à un texte en ligne s'il aboutissait à une véritable cyberculture, comme on peut le rêver. Et comme on peut encore le rêver de l'autre côté de l'Atlantique, la dématérialisation, la lecture qu'on appelle extensive et totalement décontextualisante, la désautorisation, l'anonymisation, hein, l'espèce de démocratisation de l'autorité du savoir, espèce de vision de Michel Serres, ou alors ces alternatives commerciales qui sont de substituer à une pyramide une statistique, la dévalorisation, c'est-à-dire à la fois la marchandisation universelle et détachée de toute évaluation du travail réellement effectué pour construire le texte, comme on a par exemple tendance qui apparaît dans ces sites d'enchères où la valeur est totalement découplée du travail et de la matérialité, et également cette dévaluation qui tient au fait que la culture du net rend très difficilement acceptable le fait de payer pour des contenus qui semblent immatériels, alors que on a beaucoup de mal culturellement à découpler le matériel de la matérialité financière, hein, même si l'argent est évidemment un symbole et un moyen d'échange symbolique, l'inflation quantitative et anarchique pèse lourdement sur ce que nous pourrions espérer du livre et du texte électronique. Il y a une résistance très nette, je crois, de nos habitudes, de nos psychés, à ce qu'on pourrait voir comme étant une manifestation très aboutie de la schizophrénie des sociétés capitalistes modernes dont parlait Gilles Deleuze. En tout cas, il y a une anxiété de l'Internet. Est-ce que c'est une anxiété du capitalisme international, disait, de la globalisation, ou est-ce que c'est simplement une anxiété de la dématérialisation, de la virtualité? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous réintroduisons toute une série de phénomènes de compensation, hein, d'où sans doute le fait qu'on ait des phénomènes de reconcentration, de regroupement de sites, et qu'on réintroduise dans notre appréhension des sites les mêmes critères que ceux que nous allons placer dans des institutions canoniques. On va essayer d'y revoir l'histoire d'un site, notamment l'histoire d'un site commence à être un poids tout à fait lourd et nous rassérène, hein, dans nos inquiétudes face à la dématérialisation. La propriété est tentée d'être reverrouillée et le texte est soumis à une tentation de repersonnalisation, hein, réinvestissement dans la matière qui s'oppose nettement aux virtualités identitaires rêvées à une certaine époque. Ainsi, on a une résistance à un retour de l'autorité textuelle et le fait que on veuille en voulant absolument et en ayant je pense qu'il est symptomatique que l'échec de tous les systèmes de location ou de mise en partage des données personnelles tiennent au fait que l'Internet nous incite à défendre la sphère du privé, hein, peut-être comme jamais ça a été le cas. Tous les systèmes qui tendraient à rendre plus souple la barrière entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à autrui, qu'il s'agisse de la mise en partage d'informations ou par exemple les logiciels de recherche, là on est toute une série de polémiques lorsque Google cherche à intégrer la recherche de son propre bureau avec la recherche en ligne ou avec le mail qu'ils ont essayé de faire Google Mail. De même, tout ce qui relèverait de phénomènes de prêt, de location, de repartage, et ça c'est une énorme limite des réseaux peer-to-peer, on se heurte à une anxiété qui se traduit par un réinvestissement de la différence entre privé et public. Et ainsi, le texte en ligne tient son hétérogénéité à la superposition de ce qui est devenu le web, c'est-à-dire à la fois un instrument, mais aussi une culture et peut-être une métaculture, à la superposition de fantasmes qui ne sont pas éteints. Le web comme monstre avec ses rêves d'auto-organisation, les métaphores qui y naissent constamment, qui vont fonder le code informatique ou les virus ou les vers sur des métaphores biologiques, les rêves qui ont été ceux du web sémantique d'une autoproduction de savoir qui rappelait fortement un centre de récits utopiques où une intelligence autonome du web aurait pu se produire. Les rêves de la troisième génération d'Internet était le rêve d'un système où des ontologies et des procédures de déduction incluses dans les pages web permettraient à des moteurs de recherche de faire des déductions par eux-mêmes. En gros, vous caractériseriez dans un site Madame Bovary, Flaubert, comme un auteur français qui renverrait une ontologie où la France serait un des pays, etc. Le site serait lié à d'autres sites autoriaux où on s'apercevrait que Balzac est aussi un auteur français, etc. Et on arriverait à des phénomènes d'intelligence artificielle directement produit par le texte du web. Donc ces fantasmes un peu frankensteiniens s'opposent à des réactions parfois saines, consistant à faire simplement le web comme une répétition de l'ancien. Hein. On a pu montrer, moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, qu'une large partie de la culture du web nous rapprochait d'anciennes formes de rapport au livre, rapport de rapport actif, hein, l'idée que le lecteur est un rapport actif au livre est une idée qui a disparu avec l'œuvre fermée, close, autonome du XIXe siècle, mais qui a été pendant une large partie de notre histoire culturelle dominante. On a travaillé avec Claude Bourqui sur l'édition d'un texte qui a été probablement largement créé par une des procédures de jeu de rôle collectif et disons de mise en débat d'épisodes dramatiques proposés à l'attention des lecteurs dans un salon au début du XVIIe siècle. Donc on peut imaginer tout à fait nettement qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans les pratiques, dans certaines pratiques de romans interactifs. Fantasme donc monstrueux, fantasme de répétition, au contraire fantasme statique, ou encore vision anti-techniciste qui reste très prééminente à cause des effets de dématérialisation où la technique dévaluerait la matière, la valeur. La culture de la gratuité serait une culture du vol, la culture du virtuel serait une culture du danger. Alors on a toute une série de réflexions assez intéressantes sur cette manière dont on a pu investir la virtualité comme étant quelque chose de déstructurant, de fondamentalement déstructurant pour l'être. Et là on est dans une position totalement antinomique par rapport à la position techniciste qui ne ferait du web qu'une extension, une potentialisation de possibilités de la nature humaine dans une attitude de contrôle qui pourrait être maintenue. Donc comme l'écrit, je crois, et je crois qu'on peut conclure par quelques banalités, le web est à la fois, comme le disait Platon lui par Derrida, à la fois le remède et le poison. Hein, on a affaire à quelque chose qui est le remède et le poison. Et en tout cas, je crois que comme le livre, après quelques années, on ne peut plus parler d'un texte homogène, d'un texte continu. La structure, la globalisation du web est une globalisation à minima, et en réalité le web a toute la diversité de l'écrit, de l'histoire de l'écrit, et toute la diversité de l'homme aujourd'hui, je crois. Merci.
Merci pour cette belle synthèse dans les temps.
Dans les temps.
Tout à fait dans les temps. On avait pris de mauvaises habitudes d'ailleurs en ton absence.
Alors est-ce qu'il y a des questions? Sans doute. Mais il faut le temps qu'elles se déplient.
C'est un petit peu embarrassant après l'intervention d'Alexandre. C'est demain on a une matinée de discussion, etc. où vont revenir un certain nombre des propos qui ont été des. Une question a été avec moi, j'aurais une simple question. Qui, parmi ceux qui sont ici, ne seront pas là demain? Alors, est-ce qu'on commence un certain nombre de propositions, de débats?
J'aurais peut-être pas dû faire une synthèse alors. Enfin, faire une.
Non, mais c'est pas bien. C'est une question du temps, de gestion du temps et des personnes qui sont présentes.
De toute façon, c'est ta synthèse à toi, puisque tu seras.
Oui, c'est ma synthèse à moi. Je ne serai pas demain matin parce que je fais la synthèse de l'autre.
Oui, c'est ma synthèse à toi, mais elle recouvre aussi ce qui a été dit, débattu, qui est récurrent plus ou moins. Et c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a des choses que je réservais pour demain, puis que j'aurais. Je vais
te rendre
dire maintenant si.
Non, côté synthèse, il vaut peut-être mieux attendre demain.
Ouais. Et ça prouve effectivement qu'on fait d'autant mieux la synthèse qu'on n'a pas entendu l'ensemble des communications.
Ouais. Non, mais ça confirme ce que la pratique ancienne, tu parlais, Alexandre, pour terminer. Ouais. Du phénomène par lequel, au fond, on ne ferait que reproduire d'une certaine manière, avec la technique nouvelle, des systèmes de pensée ou des pratiques anciens, plus ou moins anciens, ou redécouvrir des pratiques. Là, il y a une pratique traditionnelle dans les colloques que mon ami Michel Bernard critique, qui consistait à, quand on lance le colloque, à préparer les conclusions. Et à les dire au dernier moment, bien sûr, mais les conclusions étaient déjà inscrites. Et tu nous l'as bien illustré.
On l'a fait aussi.
Alors, pour répondre complètement à ta question, c'est pas ce que nous proposons avec Patrick. Nous proposons demain matin de faire une séance de bilan. Je suis désolé pour ceux qui ne seraient pas là. Parce que nous avons un certain nombre. Alors, il y a d'abord une récapitulation avec Patrick. Nous allons vous proposer une une synthèse transversale, disons, de tout ce qui s'est dit en séance et hors séance d'ailleurs. Et puis il y a un certain nombre de décisions à prendre, par exemple sur la publication ou sur un avenir éventuel de ce type de rencontre. Et je pense qu'il vaut mieux réserver ce moment que nous avons maintenant après l'intervention d'Alexandre à une discussion sur ce qu'il vient de nous présenter et à des questions, parce qu'il est quand même intervenu sur un point assez précis de nos propos.
Alors, bon, alors pour poursuivre, si je peux, sur l'intervention d'Alexandre, il me paraît évident qu'il y a une question récurrente et que tu as évoquée à nouveau, qui est l'historicité de ce qui a été fait sur Internet. Il faut marquer, tu as parlé des dates, des auteurs, etc. Je crois qu'il faut absolument pouvoir préciser tout cela, on en vient, la nécessité apparaît à force, enfin, je dirais, c'est un peu statistique hein, ce que je dis, à force d'entendre des propos sur ce sujet, je vous dis qu'il est important qu'on puisse faire l'histoire de nos pratiques. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose dans ton propos, qui me paraît pouvoir être reprise, on a beaucoup parlé du droit d'auteur, tu as parlé des limites, de la légalité, etc. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, qui n'ai pas entendu dans ton propos, c'est et la propriété du producteur que nous devenons. Et ça va poser aussi des questions de pérennité, etc. Jusqu'à quand on est propriétaire de ce qu'on a fabriqué, et ainsi de suite. On parle toujours de ce qu'on a emprunté. Il y a différents niveaux d'emprunt. Il y a l'emprunt du logiciel et il y a l'emprunt du texte, de l'image, etc. Et on se trouve avec des limites. On a parlé à plusieurs reprises, soit ici, soit de la manière, soit même à côté dans le colloque, de la limite du droit d'auteur, 70 ans, etc. Bien. Mais et ce que nous faisons, c'est aussi une production. La transformation ou même la création d'une banque de données, c'est une création. Y a-t-il dépôt légal? Faut-il faire un dépôt légal?
Moi, je ne crois pas au dépôt légal. En revanche, j'ai vu ce matin avec amusement qu'il vient de lancer la version française d'un outil qui existe aux États-Unis depuis un certain nombre de temps. Alors, il y a tout un système tarifaire. Je crois qu'il y a déjà une fac qui l'a utilisé. Ça doit être la fac de La Réunion. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Qui permet de vérifier qu'on n'a pas à faire un plagiat dans les travaux des étudiants. Et je crois que pour 149 euros, Henri, tu dois pouvoir interroger 1000 fois leur base de données. Qui va comparer des travaux d'étudiants à l'ensemble de tes textes ou à l'ensemble de textes disponibles sur le web. Alors ça se fait, je ne sais plus comment il s'appelle.
Tu as entendu parler de ça?
Non.
Non, j'ai vu il y a quelques jours, c'est un truc qui existait aux États-Unis depuis assez longtemps en fait, parce qu'il y a un taux maintenant de fausses dissertations, etc. Vendues, et là maintenant il y a la version, il y a enfin la version française. Et il y a une fac qui a déjà, je crois, c'est pas l'UT de La Réunion, un truc comme ça, qui a acheté, qui est le premier utilisateur de cette base de données, qui vise à établir que les travaux étudiants sont bien authentiques.
Oui, mais tu ne réponds pas à la question.
Alors pour notre droit personnel,
ouais. Je parle moi de la production que nous faisons nous de différentes choses. Je parle, moi j'ai fait un site surréaliste par exemple, qui lui-même est composé de données, mais qui sont données d'une telle manière que l'utilisateur, lui, il a une plus-value quelque part.
C'est extrêmement complexe. La jurisprudence est voulue.
Non, mais je ne demande pas de droit, je dis simplement. À quel moment, moi, je vais arrêter de travailler? Est-ce que je le garde pour moi? Est-ce que je le livre? Il est sur le réseau.
Souvent, ce qui se fait, c'est des...
Mais j'en suis quand même, je ne voudrais pas que ce soit dénaturé.
Tout le temps. Ouais, mais... Ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est pour tout ce qui est développement un peu obsolète, y compris les développements fermés de type commerciaux, etc. Au bout d'un certain nombre de temps, les gens le mettent en copyleft, en fait, tout le monde peut l'utiliser. Et sinon, pour ce qui est de l'intérieur d'une fac, c'est la fac qui récupère les droits, je crois. Hein. Sauf erreur, au bout d'un certain temps.
Bien. Constance? On verra si la question revient.
Mais la question, moi, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que tu as beaucoup parlé d'autorité. J'ai entendu une autorité culturelle et intellectuelle, et tu as égratigné quelques maisons d'édition électronique en disant qu'elle n'est pas d'autorité. Ouais. Dans une maison d'édition, collaboration avec des fichiers fermés, ouais, commercialisés, ouais, à qui on, parce qu'il y a des auteurs à qui on doit reverser des droits, ouais, que les auteurs souhaitent, même si nous n'y parviennent pas, souhaitent tout de même vivre de leur plume, et ça me paraît essentiel pour un artiste, ça c'est une parenthèse. Tu dis qu'il n'y a pas d'autorité. Or, il y a une autorité qui n'est pas seulement culturelle ou intellectuelle, elle est avant tout économique. Et c'est, alors c'est dommage, ça crée des, ça crée, ouais, des conflits entre les possibilités offertes et ce qui se passe réellement.
Ouais, mais là tu vois, je pensais à l'autorité d'une maison d'édition en ligne, qui est une autorité symbolique. Il a fallu pas mal de temps pour que Gallimard construise son autorité symbolique. Il est fort difficile à une maison d'édition en ligne ou à un site web de construire son autorité symbolique parce que le web a son historicité. Pardon ?
Le temps sur le web n'est pas le même.
Le temps n'est pas le même, mais le web a déjà une histoire. Il y a des autorités qu'on ne peut plus renverser. C'est-à-dire que les effets qui se renversent extrêmement difficilement, le système de notation de Google notamment, il y a un poids historique qui pérennise et qui favorise la concentration. Il y a une occupation de noms de domaines centraux. On est déjà dans l'histoire du web. On est déjà dans des, il y a déjà des effets de massifs d'histoire, de sites ou de. Et c'est vrai que pour une maison d'édition, enfin, on avait souvent discuté lors de Zéro Heure. Moi, j'explique, si tu veux, une partie de l'échec, non pas au modèle économique, mais au fait qu'une partie des éditions, les éditions classiques, par exemple, n'avaient pas l'autorité scientifique légitime pour asseoir la maison d'édition. Mon idée, si tu veux, c'est aussi le modèle aussi un peu très bien, c'est qu'il faut être encore, avoir une autorité scientifique beaucoup, beaucoup plus forte lorsqu'on est en ligne, avec comité scientifique, etc., que quand on fait, quand on est beaucoup plus clairement inscrit dans une institution. Il faut une autorité extrêmement lourde pour arriver à imposer un texte en ligne, pour arriver à imposer la signature, pour qu'un chercheur puisse. Alors, en tout cas, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des sciences dures, le point n'est pas du tout pareil, n'est pas du tout semblable. Parce que dans les sciences dures, le problème est assez simple parce que l'autorité, les textes sont largement vérifiables par eux-mêmes, sont soumis à des protocoles et des preuves expérimentales.
Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur le principe. Maintenant, il faut remettre les choses dans l'histoire du monde. Et en 1997, le modèle économique des startups faisait que le temps de constitution d'un catalogue devait durer 2 ans.
Il
fallait en 2 ans constituer un catalogue absolument considérable de 500 titres.
Mais c'était intenable.
Et du coup, la qualité des titres en pâtissait énormément.
C'est le problème, c'était intenable. C'était intenable.
C'est sans doute une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Mais l'autorité n'est plus culturelle dans les faits, elle est économique. Dans ce cas-là.
Bien, qu'est-ce que vous voulez poser une question, monsieur le maire, non ?
On a mentionné ce logiciel, après ce n'est pas un logiciel, mais après ce service de vérification des plagiats. Et ça semblait avoir surpris les gens, alors. Mm-hmm. Si vous voulez, je vous l'explique, puisque
bien sûr.
Je suis américain. Les universités, beaucoup d'universités maintenant en Amérique du Nord, prennent un abonnement à ce service. Ce n'est pas un logiciel, c'est un service. Et à ce moment-là, les professeurs envoient les travaux, notamment surtout dans le numérique, de leurs étudiants à ce service, et le service vérifie que le travail n'est pas un plagiat. Comment est-ce que le service vérifie que le travail n'est pas un plagiat? Le service compare ce travail à tous ceux qu'il a dans sa banque de données. Et tous ceux qu'il a dans sa banque de données, c'est tous ceux qu'il a reçus avant des autres universités. Ce qui fait que lorsque l'université s'abonne à ce service, eh bien, elle s'engage à donner en fait tous les travaux de tous ses étudiants à cette base de données. Et il y a à l'autre bout quelqu'un qui fait de l'argent en proposant un service de vérification anti-plagiat basé sur une base de données qui sont constituées de textes qui sont ceux des étudiants.
C'est intelligent, hein.
Alors évidemment, des étudiants et un étudiant qui s'inscrit à cette université, dans une université qui est inscrite à ce service, doit accepter. Et des étudiants ont été en cours pour dire je fais un travail qui m'appartient, je le donne à notre professeur uniquement pour être évalué, et je ne veux pas envoyer ce travail à ce service. là, certaines universités ont répondu, bon, si vous voulez pas qu'on vérifie que c'est du plagiat, donc c'est du plagiat. Et le problème dans la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec la propriété intellectuelle des autres.
C'est belle.
C'était juste, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire un site centré? Oui.
Non, j'ai dû parler d'outils de gestion de site web centré, en oui, fait. Ben, en fait, si tu veux, grosso modo, il y a un vieux mythe dans l'Internet, et c'est que ça va plus être ton ordinateur qui va assumer l'ensemble des opérations essentielles, mais ça va être le web lui-même. Bon, et si tu veux, à une époque, c'était un grand slogan, « The network is the computer », tu vois, le réseau, c'est l'ordinateur. Bon. Alors, ça a eu ses limites parce que, justement, les gens ne voulaient pas complètement déléguer, si tu veux, leur machine à un système central et voulaient conserver leur ordinateur personnel. Cependant, il y a toute une série maintenant d'outils extrêmement performants sur le web. Alors, ce qui n'a pas marché, ça a été par exemple le fait d'avoir un traitement de texte sur le web. En revanche, les outils de gestion de site ou de gestion de plateforme qui sont complètement sur le web, où tu peux accéder à n'importe quel endroit du monde, comme tu as un webmail, ça a pu s'imposer.
C'est un site en PHP majuscule,
par exemple. Ben, si tu veux, il y a plusieurs générations dans les outils de gestion de contenu. La première génération, ça a été des pages statiques. La deuxième génération, ça a été des pages dynamiques avec des bases de données et des langages permettant de les gérer. Mais, si tu veux, une sorte de bricolage. Maintenant, la génération d'outils de gestion de contenu ont comme spécificité que tu l'installes une fois pour toutes, et c'est assez simple. Et ensuite, tu structures et tu écris ton texte directement. Et notamment parce qu'ils ont réussi à mettre en place des systèmes qui permettent de taper directement des italiques, etc., dans certains navigateurs, sans avoir, si tu veux, à connaître l'HTML, ce qu'on appelle l'interface WYSIWYG. Mais ça va plus loin que ça, parce que, si tu veux, ton application est capable de te gérer la structure du site.
Le blog est l'aboutissement aussi de ça.
Le blog est une partie de l'aboutissement, oui, de ça. Ouais.
Le wiki aussi. Qu'on gère à distance. D'autres questions? Bon. Dernière question.
Ouais. Julien. De formats concurrents, mais des problèmes de normalisation et d'autorité technique. Mais il y a quand même des institutions comme la NORMISO ou W3C qui veillent à vraiment structurer un peu les avancées du web, justement, freiner les Microsoft, des choses comme ça.
Ouais, mais le W3C a vu à de nombreuses reprises, a perdu à de nombreuses reprises, et a perdu pas seulement à cause d'entreprises commerciales qui ont voulu le dynamiter, mais aussi parce qu'ils ont mis trop de temps à élaborer un standard, hein, ou parce qu'ils ont voulu défendre une version un peu trop lourde du standard. Et il est arrivé à plusieurs reprises que ISO ou le W3C soient obligés d'entériner a posteriori des trucs qui étaient déjà en marche. Et puis quand tu regardes ces organismes, ce sont rarement, ou quand tu regardes les consortiums commerciaux qui entérinent les standards, c'est rarement, si tu veux, des gens qui se mettent comme ça en disant « il nous faut un standard ceci », c'est des gens qui vont avaliser ou pas, plus ou moins largement, des trucs qui leur sont proposés.
Ça donne quand même une autorité un petit peu de ce qui est standardisé, de ce qui n'est pas.
Oui, mais faible, à minima, très très lente. Très très lente. Statistiquement, si tu regardes statistiquement, je pense qu'il ne doit pas avoir plus de 10% des pages qui sont conformes à des spécifications HTML, ne serait-ce que même à des standards assez bas, tu vois. À mon avis, si tu prends n'importe quel site, alors c'est pour ça que je disais que les navigateurs aujourd'hui, c'était des machines à avaler des erreurs, tu vois.
Oui, Jean-Baptiste.
Alors, je voudrais rebondir un petit peu sur l'idée d'autorité et le rôle que peuvent avoir des entreprises commerciales comme Microsoft, en faisant un petit peu à dessein l'avocat du diable. C'est que finalement, Microsoft finit par se conférer un statut d'autorité. Et Google est en train d'aller vers la même chose. Alors, aussi peu souhaitable que ça soit, que ce soit des entreprises commerciales comme ça, derrière ces gens-là ont aussi un poids commercial qui leur permet d'avoir aussi un rôle positif sur un certain nombre d'innovations. L'open source permet d'avancer sur certaines choses, et les gros mastodontes commerciaux vont permettre de faire avancer sur d'autres choses où l'open source est inadapté.
Absolument. Le fait que le standard doc de Word soit imposé est un gain absolument considérable par rapport à l'anarchie qui aurait pu régner si on avait affaire à l'open source. Enfin, moi, je passe mon temps, tu vois, j'ai tout mon travail est sous Linux, enfin, largement, et heureusement qu'on a des trucs comme Microsoft, parce que il y a un sens de l'anarchie et de l'entreprise dans l'open source qui est absolument considérable. Et tu as tout à fait raison, là, je souscris tout à fait à ton propos.
Bien le point, Michel.
Oui, simplement, personne ne se plaindra qu'Alexandre ait choisi de ne pas traiter exactement ce qu'il avait prévu de faire.
J'y suis pas arrivé.
On a eu, voilà, mais justement, mais est-ce qu'on pourrait quand même, alors sous forme de dialogue, en voir quelques étapes, parce que l'histoire du livre, enfin, examiner l'Internet du point de vue de l'histoire du livre, je crois que c'est quand même une piste intéressante. Ouais. Et dans la mesure où tu viens avec... tu viens de travailler sur l'édition d'un ouvrage du XVIIe siècle, ouais. Ça te donne aussi, tu as cité Chartier tout à l'heure, enfin...
Oui, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Le problème, c'est que je me suis aperçu de ne pas avoir de modèle suffisamment stable ou d'usage suffisamment net. Et en fait, ma réponse, si tu veux, c'est que Internet, c'est toute l'histoire du livre. C'est-à-dire qu'on y retrouve superposé des pratiques qui relèvent de la conception du XIXe siècle du livre. Autorité très affirmée, texte fermé, comme des pratiques qui relèvent de fantasmes utopiques qui ont travaillé sur des livres à un certain moment. Donc si on y retrouve vraiment une superposition d'usages tout à fait dissemblables et empruntés d'époque et de conception de l'objet livre, de l'objet écrit tout à fait différencié, tu vois. C'est de l'impression que j'ai eue. On y a des revues artistiques extrêmement élaborées, hyper verrouillées, qui relèvent de paradigmes modernistes, de fusion, du texte, de l'image, avec des, etc. Comme on a en même temps des choses qui relèveraient d'une écriture à la montagne fondée sur l'hypertextualité, de commentaires comme... Tu vois, donc je n'arrive pas pour le moment à avoir un modèle, d'édition. Les sites scientifiques d'édition en ligne sont tous hétérogènes. Certains relèvent d'une conception très génétique, d'autres une conception... Enfin, tu vois, on retrouve dans la manière de traiter l'édition en ligne dans les exemples qu'on a, mais heureusement on n'a pas beaucoup en France. En fait, des choses dont les présupposés théoriques émanent des critiques parfois tout à fait distinctes, tout à fait...
Mais comparons avec les débuts de l'histoire du livre, quand même.
Excuse-moi, Adam, pour rejoindre ce que tu dis, si tu prends l'édition critique, on dit aujourd'hui, il n'y a plus que la Pléiade, si tu regardes les modèles, quel est le protocole, et il m'est arrivé de le demander, quel est le protocole d'édition de la Pléiade, il n'y en a pas.
Il y a beaucoup bougé, ouais, beaucoup bougé.
Il n'y en a pas plus.
Enfin, pour chaque Pléiade, il y a un modèle différent.
C'est très différent.
Ça tient au directeur.
Ça a pas mal bougé.
Non, ça tient à l'éditeur de chaque volume.
C'est ça, au directeur de chaque Pléiade.
C'est pas l'éditeur de la Pléiade. Le directeur de la Pléiade, bon, il y en a eu trois.
Le directeur de chaque Pléiade.
Aucun n'a été capable. Bon, il m'est arrivé de demander, puisque je devais faire la Pléiade, de demander le protocole, et on m'a donné un truc qui n'était pas du tout un protocole.
C'est ce qu'il appelle un minima.
Oui. Sur ça, moi j'aurais une question, c'est... Le thème original, c'était de comment est-ce que le web s'inscrit dans la continuité historique, ou dans la reviviscence historique, de procédés qu'on avait déjà, soit à travers, soit à travers le livre en lui-même, ou alors à travers des procédés oraux. Je pense par exemple au forum, ça se rapproche assez directement du paradigme du débat avec des gens qui animent un débat. Par contre, la question, c'est plutôt quels sont les procédés d'Internet, les procédés du web, qui à contrario ne s'inscrivent dans rien d'historique, qui sont fondamentalement différents de ce qu'on a déjà connu.
C'est pas tant que ça.
Alors là, je me suis posé la question avec les systèmes des 5 colonnes Wikipédia, mais c'est pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, c'est l'opinion publique qui sait d'abord. Le blog, le caractère novateur des.
Cette mise au public, par exemple, des journaux intimes que représentent parfois les blogs, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans des procédés qu'on connaît déjà, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est tout complètement nouveau?
Il n'y a jamais rien de complètement répété, il n'y a jamais rien de complètement nouveau sous le soleil. C'est...
Ce qui est nouveau, c'est quand même que tout le monde a la parole. Et peut l'exposer.
Non, mais tout le monde a une feuille de papier, un stylo chez soi.
Oui, mais ça ne sera pas diffusé.
Oui, mais ça ne sera pas diffusé non plus, les blogs non plus.
Mais si.
Mais non, Skyrock héberge 2 millions de blogs, t'en connais combien?
Oui, non, mais là. Potentiellement.
Potentiellement,
c'est accessible,
oui,
mais là. De n'importe où.
Il y a quand même une caisse de résonance qui est complètement nouvelle. Des histoires qui font le tour du monde, il y a quelques années, il y avait une. L'histoire de la, je sais plus comment elle s'appelle, UBRH, je crois, l'étudiant d'HEC qui avait écrit un nombre de mails.
Il y a toujours eu des trucs comme ça qui sont très célèbres. Il y a toujours,
toujours l'exception.
Il y a plein de trucs qui ont fait le tour du monde comme ça avant que le web existe. Hein, ça,
je pose la question, justement.
Mais non, moi, je.
C'est le CHU de Rouen.
On pourrait peut-être s'arrêter. Michel, tu es d'accord?
Un enfant, je suis à plusieurs mois.